La voix maltée. Une série d'émissions sur la fabrication de la bière. Réalisée chez Cédric, brasseur albigeois amateur et averti.
On est parti.
Du 26 septembre au 20 novembre 2020.
Santé, ouais, hein. Santé.
Allez, osez.
Allez, au centième, hein.
Salut Paul, donc bienvenue à la Pico Brasserie. Voilà, donc Pico Brasserie, c'est une micro-brasserie, mais on a encore plus petit, en fait. Donc moi, j'ai un système qui me permet de brasser sur du 50 litres, de faire 50 litres de bière au final. Voilà, donc là, tu vas assister à l'élaboration, au brassage d'une bière, en fait, ce qu'on appelle le processus de brassage. Et on va commencer tout de suite. Donc moi, c'est une picobrasserie en gravitaire, donc je t'expliquerai plus tard dans la journée ce que ça signifie. Et donc là, on va commencer par mettre le feu à la cuve d'empattage, et j'expliquerai aussi plus tard qu'est-ce que c'est que l'empattage. Voilà, donc c'est une picobrasserie qui fonctionne au gaz, comme tu peux l'entendre.
On est sur deux grosses cuves.
Voilà, donc en fait en gravitaire,
pour un petit peu,
ouais,
là,
pour, donc rapidement, après on va les peser les céréales. Donc là on est sur, pour l'instant il y a deux cuves qui sont installées. La première cuve qui est la cuve d'empattage qui va permettre de faire l'infusion de céréales. Ok. Et tout en haut, donc au-dessus, c'est pour ça que c'est en gravitaire, au-dessus se trouve la réserve d'eau qui permettra de filtrer, donc avec de l'eau chaude, que je chaufferai plus tard, qui va permettre de filtrer cette infusion de céréales, là, qui est pour l'instant qui est sur la cuve qui est au milieu. Et en bas, tout à l'heure, j'installerai la cuve d'ébullition. Donc en fait, l'eau chaude va venir filtrer la cuve du milieu, qui va descendre, voilà, le liquide va descendre dans ce qu'on appelle la cuve d'ébullition, qui porte bien son nom, puisqu'on va faire bouillir tout ça, qui sera, elle, au sol. Voilà, donc en gravitaire, parce que ça me permet justement de ne pas avoir d'apport énergétique. C'est la gravité terrestre qui fait bien son boulot. Donc on n'a pas besoin d'amener quoi que ce soit comme énergie supplémentaire. Ce qui est un peu le but de la brasserie aussi, j'y reviendrai dans la journée. Voilà, de comment on peut créer une activité humaine de production qui soit la moins impactante pour l'environnement. Et là on va passer à l'étape des céréales, on va aller peser les céréales. Tac. Donc on va passer à la pesée des céréales. Donc là aujourd'hui on va brasser une bière de blé. Donc là j'ai un stock de blé. Je vais peser 5 kg de malt de blé. Donc là, on a 5 kg de malt de blé auquel je vais ajouter 5 kg de malt d'orge.
Là, déjà, ça sent, tu peux avoir l'odeur là, ça sent bon. Hein. Ça sent bon le malt.
La bière, c'est une histoire de goût, mais c'est aussi une histoire d'odeur, beaucoup. Et ça commence avec la céréale. Tout à l'heure, tu verras le houblon, qui est aussi une partie super sympa au niveau des odeurs.
Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est le malt ? On entend beaucoup ça, mais c'est quoi les céréales maltées ?
Alors, le malt, en fait, ce sont des graines. Donc principalement de l'orge pour ce qui concerne la bière, qui sont germées. Voilà, donc ça c'est le travail du malteur, qui est pas mon boulot, hein. Moi je veux être brasseur, mais il y a des gens qui font ça très bien, qui s'appellent les malteurs, Et donc, en gros, le truc, c'est de... tu vas faire germer tes graines. Les graines vont... Le processus de germination, en fait, fait qu'il y a des productions d'enzymes qui vont dégrader la molécule d'amidon. La molécule d'amidon est une très très grande chaîne de sucre. Et ces enzymes viennent la couper en petits morceaux, en gros. Et en fait, une fois qu'elle est coupée en petits morceaux, ces sucres deviennent ce qu'on appelle fermentissibles, c'est-à-dire qu'ils sont, ils peuvent être assimilables par les levures. Voilà. Donc les levures, si tu mets de l'amidon à des levures, elles ne peuvent pas travailler. Par contre, si tu leur donnes du sucre fermentissible, des petits morceaux d'amidon, là par contre, elles peuvent faire leur boulot. Et donc le travail des levures, ça va être à partir de sucre, de créer de l'alcool et du CO2.
Okay.
Voilà, donc le malt, ce sont des graines germées. Le malteur, en fait, fait germer les graines. Alors le processus dure une petite semaine, je crois. Il y a ce qu'on appelle le trempage, en fait, pendant une petite semaine, la graine va commencer à germer. Ensuite, il y a le touraillage qui va permettre au malteur de garder que la graine, en fait, d'éliminer la petite radicelle qui s'est formée et ce qui sera plus tard la tige de la plante, en fait. Voilà, il élimine ça. Et après, il passe dans des fours, en fait. Et alors là, c'est là que se créent le malt, les différents malts, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il va passer la graine à faible température, on va obtenir ce qu'on appelle du malt blond, pour faire de la bière blonde. Et plus il va augmenter cette température-là, au plus il va créer... Donc il monte la température, il va obtenir du malt qu'on appelle caramel, qui va permettre de faire des bières ambrées. Et il va encore monter, et il va obtenir des malts bruns, pour faire des bières brunes, pardon. Et là, par contre, s'il monte encore plus, en fait, il fait carrément griller le malt. Et là, c'est le processus qu'a inventé, malgré lui, Arthur Guinness. Voilà, l'inventeur de la Guinness. Voilà, et qui un jour a trop fait griller son malt, a oublié son malt, en fait, qui a grillé. Et il s'est dit, bon, ben tant pis, allez, je fais quand même une bière avec ça. Et c'est comme ça qu'il a créé la Guinness, en fait, qui est une stout, en fait, qui est au-delà de la bière brune, en fait, qui est une bière noire. Voilà. Souvent, comme dans l'histoire de l'humanité, en fait, ça procède, les humains procèdent par erreur, et ils trouvent les plus grandes découvertes, souvent, se sont faites par erreur, quoi.
Bah, c'est marrant, j'avais entendu, j'ai eu la chance d'aller visiter l'usine Guinness, et on m'avait dit que l'autre légende que j'ai entendue, c'est qu'en fait, les greniers à céréales ont brûlé, et que du coup, ça avait, c'était tout leur grain pour faire la bière qui avait brûlé, et qu'à la base ils faisaient pas une bière stout, mais qu'en fait ils ont pas eu le choix, économiquement ils ont quand même décidé d'utiliser le malt pour faire une session, et que voilà, ça a fait cette bière noire.
D'accord.
Donc il y a peut-être deux légendes urbaines, on saura jamais laquelle est la vraie.
C'est ça.
Mais derrière les histoires comme ça, il y a aussi un peu peut-être de marketing pour nous vendre un produit, je sais pas, alors...
Ouais, peut-être. Alors après, il faut savoir que lorsqu'on fait une bière brune, on n'utilise pas que du malt brun. Donc, ton histoire me plaît beaucoup, mais par contre, c'est pas possible que tout leur grain est grillé. C'est-à-dire que quand on fait une bière brune, il y a la majeure partie du grain qui est utilisé, c'est du blond, en fait. Voilà. Et il faut une petite proportion de malt brun pour faire une bière brune. Voilà. Donc si tout leur malt a grillé, ils étaient capables de faire du café, mais pas de la bière.
Peut-être que c'était une partie, je sais pas.
C'est ça.
On demandera à Wikipédia.
C'est ça. Et donc pour terminer, on va rajouter un petit peu d'un malt. Alors justement, voilà, on est un peu sur les malts caramel. Bon, celui-là, il s'appelle le Cara-L, dénomination commerciale aussi. C'est du malt qui a été torréfié moyennement. Voilà, donc c'est du malt qui permet de faire des bières pour celui-là, en fait. Plutôt des bières rousses. Voilà. Donc ça va donner une... Donc là, on va être sur une bière entre le mélange de blé et de malt blond. On va être sur une bière donc, qu'on appelle les bières blanches, en fait. Et là, le petit apport de ce malt qui donne une coloration un peu ambrée rouge-rousse, ça va permettre de donner une légère coloration à la bière, qui sera un peu plus orange, en fait, voilà, qu'une bière blanche traditionnelle. Voilà, parce que là, je suis sur une recette qui vient d'Allemagne, en fait. Le nom, c'est Hefeweizen, en fait, c'est bière blanche de blé. Okay. Voilà.
Le chien est très intrigué, ça a peut-être un peu le même bruit que les croquettes.
Pas à manger du tout, hein. Non.
Bon, du coup, il paraît qu'il y a des météos qui sont plus ou moins favorables pour le brassage, notamment au niveau de la température. Est-ce que là, on est sur un bon temps pour brasser?
au niveau de la météo, alors ce qui est problématique en fait sur les météos, c'est les météos d'orage. Voilà, donc en fait à l'origine les brasseurs, bon, aujourd'hui ça a été beaucoup industrialisé et puis on travaille avec du matos, voilà, mais à l'époque en fait les brasseurs d'il y a au moins une centaine d'années. Et bien évidemment plus vieux, puisque la bière existe sur Terre depuis les premières traces de bière, c'est 8000 ans, donc enfin l'eau a coulé sous les ponts et la bière a coulé dans les verres. Mais les brasseurs ancestraux, en fait, ne brassaient jamais par jour d'orage.
Ah.
Voilà, tout simplement parce que la pluie fait, en tombant, fait remonter dans l'air ambiant tout un tas de les bactéries qui sont au sol, en fait. Et donc il y avait beaucoup plus de risques d'infection dans le produit que par temps sec, quoi. Voilà. Parce que le plus grand ennemi du brasseur, alors, le plus grand ami du brasseur, c'est les levures, qui est un micro-organisme, mais le plus grand ennemi du brasseur, c'est des bactéries, qui sont aussi des micro-organismes, et qui sont, voilà, celles-là on les maîtrise pas par contre, donc pareil, il y a eu des brasseurs qui ont fait des bières fantastiques par erreur, mais très 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 souvent en fait ça se passe plutôt mal et ça tourne plutôt vinaigre, voilà, donc le produit final est pas très consommable. Donc là on a pesé le malt, donc là on a 11 kg de malt au total. Et on va pouvoir passer au processus de concassage, voilà, de concassage du malt. Donc là, l'idée, en fait, c'est on va casser la graine. On va passer dans un moulin, ce qu'on appelle un moulin à malt. On va casser la graine de manière à rendre apparent le sucre, de casser la graine pour que l'infusion puisse mieux se faire. Voilà, si on mettait la graine comme ça directement dans l'eau, la graine, l'enveloppe protégerait trop l'intérieur de la graine, et donc là l'idée c'est de le casser pour favoriser l'infusion. On est parti. On va voir où est-ce qu'on en est. On va essayer de faire rentrer dans un bac. Donc bien sûr, les brasseurs pro, même s'ils sont artisanaux, les brasseurs pro ont ce qu'on appelle des aplatisseurs à malt. Donc c'est des machines qui sont beaucoup plus imposantes que mon petit système bricolé là. Et mais voilà, c'est pas le même niveau aussi. Quand tu concasses 150, 200, 300, 500 kg de malt, voilà, avec la perceuse, t'en as pour la journée, quoi. Ok, donc là on a nos 11 kg de céréales qui sont prêtes à être plongées dans l'eau chaude. Hop, on va aller voir la température de l'eau. Ok, donc là du coup on atteint les donc ça fait faire 20-25 minutes qu'on a commencé, on atteint les 50 degrés. Donc l'idée en fait ça va être de monter, donc là, ma température d'empattage sera autour de 65 degrés, voilà. Donc là je vais monter au-dessus, donc je vais monter à 60, je vais mettre un 67 ou un 68, de manière à ce que quand je vais, moi j'arrête le feu, je vais rajouter la graine, donc du coup la température va rebaisser, et si je veux être à peu près dans ces eaux de 65, voilà, je devrais être à 64-65, on remettra peut-être un petit coup de feu pour remonter à 65, voilà, et donc on va faire cette infusion de céréales pendant au moins une heure et quart, je vais voir, à cette température là qui sera une température constante, voilà. Donc là c'est ce qu'on appelle un monopalier. Il y a différentes formes de brassage. Sur les systèmes complexe en fait, enfin un peu technologique. Voilà, c'est beaucoup plus facile de faire différents paliers de température, notamment sur les systèmes électriques, voilà, où les températures se gèrent très facilement. Moi, je veux pas travailler avec de l'électrique. Voilà, ça, je refuse. Quand je cuisine chez moi, j'utilise du gaz ou du feu quand je fais le barbecue. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai un projet quand même de monter une brasserie au feu de bois. Mais là, par contre, ça va demander. On verra. Tant qu'il y a du gaz, pour l'instant, on va utiliser le gaz. Et voilà, donc quand je cuisine chez moi, je cuisine au gaz, je déteste cuisiner à l'électrique. Et pour ma brasserie, c'est pareil, en fait. Voilà, donc je veux travailler avec le feu. Voilà, l'idée, c'est toujours voilà, d'être sur travailler avec les éléments, donc la terre avec les céréales, le feu avec le gaz. L'eau, bien évidemment, voilà, qui est l'élément fondamental de la bière. Une bière, c'est 98% d'eau et 2% de travail du brasseur, quoi. Là, c'est tout. donc voilà, donc là, on est en train de monter tranquillement en température. Et ben, on va laisser faire.
Que du coup c'est très important d'avoir une température précise.
Alors voilà, donc du coup la bière en fait, ça se, enfin les industriels nous expliqueraient que ça se joue à la minute et au degré près. C'est pas exactement vrai en fait, mais si nous amateurs on peut tendre vers quand même plus de précision, c'est quand même pas mal quoi. Voilà. Enfin c'est aussi la bière, c'est aussi affaire de, ouais, il faut quand même être précis, rigoureux et c'est souvent ça qui fait la différence entre un produit de moyenne qualité, on va dire, et puis un produit qui, voilà, qui sort un peu du lot, quoi. Donc là, je suis monté à 68 degrés. Je stoppe. Je vais installer. Le couvercle, parce que du coup, c'est une cuve motorisée. Donc quand je disais que je travaillais pas à l'électrique, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait oui, vrai non plus. C'est-à-dire que j'ai quand même une. C'est une cuve motorisée.
C'est-à-dire c'est quoi qui est motorisé dans la cuve?
Donc c'est une cuve, sur le chapeau de la cuve, il y a un petit moteur qui entraîne des pales qui plongent dans la cuve et qui permettent du coup de brasser. Voilà. Donc je fais pas un brassage manuel. Je fais un brassage avec des pales électriques.
Voilà. Sinon, ça veut dire que tu serais obligé de tourner à la main.
Je serais obligé de faire à la main. Et vu ma configuration, c'est pas très très pratique. Après, c'est des cuves que j'ai depuis le début. Donc, ça fait 4 ans que je brasse avec du grain. Et ce que je fais aujourd'hui là. Et c'est mes cuves d'origine en fait, donc c'est un système qui mériterait d'être perfectionné. Mais bon voilà, ça va. Pour le travail que j'ai fait jusqu'à présent, c'était quand même bien. Parce que le but du jeu en fait, c'était d'élaborer mes recettes. Et comme aujourd'hui en fait, on fête mon 100e brassin. Voilà, ça m'a permis sur 100 brassins de tester mes recettes. Donc je commence à être pas mal. J'ai une gamme de recettes qui commence à être assez étoffée. Tac, donc là je viens de claver le couvercle. On va brancher le moteur. Voilà. Et donc on peut. Voilà. Là, c'est le petit bruit qui va nous accompagner une partie de cette matinée, en tout cas. Pour ce qu'on appelle l'empattage. Voilà, donc l'empattage, ça va être cette infusion de céréales qu'aujourd'hui je vais réaliser à 65 degrés. Donc on est parti. Hop. Je lance le moteur et je vais intégrer la céréale.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en Skoll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam. C'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres.
Jacques Brel avec la bière, évidemment. Vous écoutez La Voix Maltaise sur Radio Albigès, une émission en plusieurs épisodes sur la fabrication de la bière. Aujourd'hui, le brassage, première partie.
Là, c'est de l'eau, donc il y a tout un travail au niveau du profil d'eau. Moi, je me prends pas la tête, en fait. L'eau que j'ai ici, l'eau du réseau là, que j'ai ici, me convient tout à fait. C'est un peu une eau passe-partout qui passe avec, qui permet de faire quasiment toutes les bières. Je suis pas un geek en fait. Là, il y a toute une mouvance des brasseurs amateurs. Là, il y a toute une mouvance geek, un peu des gens qui vont chercher dans les moindres détails. Mais c'est souvent sous forme de compétition en fait. Et moi, la compétition m'intéresse pas trop, pas du tout maintenant. Moi je vais pas travailler les profils d'eau, rajouter des minéraux, rajouter tout un tas de trucs en fait. C'est pas mon kiff. Moi l'idée, comme je disais au début en fait, l'idée c'est d'avoir une activité humaine qui a un minimum d'impact. Et au plus on va chercher dans les détails, ce que nous ont appris les industriels, hein, au plus on va chercher dans les détails, au plus c'est coûteux en énergie, en matière première, hein, faut du transport, faut du stockage, faut beaucoup de plastique pour stocker tout ça. Donc je pense qu'au plus on peut s'épargner ce genre de choses, au plus on pourra durer longtemps.
Et avec l'eau du Tarn, c'est faisable? La bière du Tarn avec l'eau du Tarn.
Alors ouais, donc moi sur mon eau du réseau, moi simplement je la verse la veille et je laisse mes cuves ouvertes, ce qui permet d'évacuer le chlore. Voilà. Ça par contre c'est super important. Voilà, donc et après avec l'eau du Tarn, je suis pas sûr que l'eau du Tarn aujourd'hui. Après ce qui est intéressant avec la bière, c'est pour ça que sur les périodes d'épidémie en fait, la bière c'était vachement bien parce que y a de l'ébullition en fait. La bière, c'est on fait bouillir le produit avant de le refroidir et de le fermenter. Et lorsqu'on fait bouillir quelque chose, ben on sait qu'on élimine une grande partie des bactéries. Donc pendant les périodes d'épidémie, en fait, la bière était une des boissons, voire la boisson la plus à part l'alcool pur, hein, bien sûr, mais était la boisson la plus safe, quoi, la moins transmissible, comment on pourrait dire, de vectrice, merci, merci Paul, vectrice de germes pathogènes, quoi. Voilà, donc ça c'est l'avantage de l'ébullition. Donc pourquoi pas, en fait, finalement, ouais. Parce que moi, au début, quand j'ai débuté, je faisais bouillir mon eau avant l'empattage, en fait. Et je me suis assez rapidement rendu compte que c'était débile d'un point de vue consommation d'énergie, quoi. Parce que ça faisait double emploi. Et vu que le moût de bière, donc le jus sucré, ce qu'on appelle le moût de bière, moi je fais minimum une heure d'ébullition. Ben voilà, au bout d'une heure, il reste pas grand chose comme bactéries, quoi, hein, ça c'est clair.
Le message, c'est en temps de pandémie, buvez de la bière. On a compris, Cédric.
Exactement. L'alcool, en fait, c'est un. Il y a très peu de bactéries qui sont capables de se développer en milieu alcoolique. Donc l'alcool est aussi. Oui, c'est vrai. Ça permet d'être plus safe. Tout en restant, bien sûr, comment on dit, modéré, c'est ça?
Oui, voilà. De toute façon, gel hydroalcoolique, hein, ça va bien quelque part. Hein.
C'est ça. Alors, donc là, je viens de terminer d'ajouter mes céréales. On va voir à combien mon mélange, à quelle température est mon mélange. Donc là, je suis à 63. Ouais, je suis vachement descendu. Là, j'ai perdu 5 degrés. Donc ça peut s'expliquer par le fait qu'il fait beaucoup plus froid aussi qu'à l'extérieur. Parce que là, j'ai quand même brassé pas mal cet été. Et du coup, il faut réadapter le brassage en fonction de la température extérieure. Donc là, je vais remettre un coup de flamme. Histoire de monter à mes 65 degrés que je recherche.
Du coup, il faut garder les 65 pendant l'heure entière pendant laquelle ça se mélange.
C'est ça.
Ok. Et tu laisses le moteur allumé tout le temps, du coup?
Non.
Ou genre juste au début?
Ouais. Okay. En fait, le moteur, il est allumé quand je mets la flamme, ce qui permet, voilà, de répartir la chaleur. Et après, l'idée, c'est de l'arrêter au maximum, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même une forme de... on pourrait dire de violence, en fait, mais voilà, la graine est quand même maltraitée à l'intérieur avec les pales. Donc l'idée, voilà, c'est d'utiliser au minimum ce malaxage, en fait, là, que ça soit fait au minimum, quoi. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je l'allume que quand il y a la flamme, et un petit peu après, en fait, voilà, parce qu'il y a la chaleur se répartit, en fait, voilà, dans la cuve, il faut réfléchir à ce qu'on appelle la cinétique, voilà, c'est de la cinétique de chaleur, de transfert d'énergie. Et voilà, l'idée, en fait, c'est que le brassage, on dit brasser de la bière, parce que le travail du brasseur, en fait, à l'époque, à manuel, avec ce qu'on appelle un fourquet, donc une grande pelle en bois, c'était justement ce brassage visé à répartir complètement, de manière homogène, en fait, la chaleur à l'intérieur de la cuve. Voilà. C'est ça le vrai processus de brassage, en fait, c'est ça. Donc là, c'est mécanisé, en fait, avec ce petit moteur. Il est pâle, mais à l'origine, le brassage, c'est ça. C'est avec cette grande pelle, avec ce fourquet là en bois, de bien répartir la chaleur, de manière à avoir une chaleur bien homogène pendant la plage de temps que le brasseur a décidé de faire. Et donc là, la température, le temps d'infusion, tout ça va jouer sur la qualité finale de la bière, voilà. Et sur le produit final, en fait, voilà, sur le type de bière qu'on veut faire et sa qualité.
Et là, t'es parti pour faire quoi comme type de bière?
Alors là, aujourd'hui, je fais une Hefeweizen, pardon. Donc c'est en traduction en allemand, c'est une bière d'origine allemande, en fait, donc c'est bière blanche de blé,
d'accord,
en allemand. Voilà. avec la particularité, donc ça je ne l'ai pas encore dit, mais avec la particularité que je vais utiliser du houblon sauvage.
Voilà.
Cueilli à la main, ramassé dans la vallée du Tarn, là ça vient de l'Escure, là. C'est le houblon sauvage de l'Escure. Et mais bon, après on en reparlera du houblon plus tard, lorsque ça sera le moment venu. Donc là on vient de terminer le processus d'empâtage, le premier palier, donc l'infusion de céréales s'est faite à entre 65 et 66 degrés pendant une heure. Et là je suis en train je vais monter en température jusqu'à 78 degrés en fait, qui est le palier d'inhibition des enzymes. Voilà. Donc là en fait, en faisant ce palier là de température, je vais faire en sorte que les enzymes qui servent à dégrader le sucre soient désactivées, parce qu'à cette température-là, elles ne survivent pas, et de manière après à avoir une bière qui soit stabilisée lorsqu'elle est en bouteille. Donc là, du coup, j'ai remis le gaz, et on va monter tranquillement en température jusqu'à 78. Et une fois que je serai arrivé à ce palier de température, je vais enlever les pales. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, en fait, je vais laisser la matière se déposer. Donc, c'est le fameux gâteau dont je parlais tout à l'heure, le gâteau des enveloppes de la céréale, qui vont sédimenter au fond de la cuve, donc pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir commencer à rincer l'infusion, le gâteau, voilà, le liquide qui est encore dans la cuve d'empâtage. Je vais rincer et récupérer le jus sucré, qu'on appelle le mou, dans ma cuve d'ébullition, que je monterai, comme ça porte bien son nom, à ébullition à 100 degrés pendant une heure. Voilà, donc pour l'instant, on laisse la température monter jusqu'à 78 degrés.
Et tu disais que ça fait ça stabilise en bouteille, mais qu'est-ce qui fait que du coup tes bières parfois elles sont pas stables en bouteille, quoi?
Parce qu'en fait je faisais un mauvais processus d'empâtage. Je faisais du multi-palier, je faisais deux paliers de température et là j'en fais plus qu'un en fait. Et en fait j'avais inversé les paliers de température. C'est-à-dire que le palier à basse température entre 60 et 66, 67 degrés, je le faisais trop court. Et le palier de température au-delà de 69-70 degrés, donc en gros entre 69 et 72 degrés, je le faisais trop long. Et quand je faisais ce palier trop long, je crée des sucres qu'on appelle les sucres complexes, qui, l'expérience m'a montré en fait que ces sucres qui sont pas censés être des sucres assimilables par les levures, le devenaient quand même. Et donc je me retrouvais avec des quantités de sucre dans les bouteilles, assimilable par les levures, qui étaient trop importantes. Et du coup, ça a généré quelques petits soucis d'explosion de bouteilles et de mousse un peu trop abondante. Voilà.
Du coup, c'est réglé.
Ben écoute, ouais, sur les derniers... Donc j'ai changé mon fusil d'épaule là depuis mai, à peu près, là. Et tous les brassins que j'ai fait entre mai et juin, du coup, là, les bières sont stables. Donc voilà, je pense que j'ai bien avancé là-dessus. Ouais. Inch'Allah, comme on dit dans le Périgord.
Le fameux proverbe périgourdin.
Périgourdin, ouais, c'est ça.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Avec l'accent. Là du coup j'ai monté ma cuve d'empâtage à 77 degrés, donc voilà, c'était j'avais visé 78, mais voilà, 77 c'est quand même très bien. J'ai enlevé le couvercle motorisé, donc là j'ai ma cuve voilà qui a l'air libre, et je vais installer il y a beaucoup de termes anglais dans la brasserie, donc j'essaie de me battre un peu contre ça en fait, pour franciser au maximum les choses. Ça s'appelle un fly sparge, en fait c'est une espèce de comme un chapeau troué en fait,
qui va me permettre de verser l'eau chaude à l'intérieur de manière à ce que l'eau chaude soit bien répartie et tombe de manière un peu homogène dans la cuve.
C'est comme un tamis mais avec pas beaucoup de trous.
Voilà, exactement.
Pour donner une idée visuelle.
Visuelle du truc. Donc là, je vais, comme j'expliquais, je vais laisser retomber mon gâteau là, mon gâteau de, qu'on appelle un gâteau de drèche en fait, les termes techniques. Je vais laisser reposer mon gâteau là pendant 10 minutes. Donc c'est ce gâteau qui va faire un filtre naturel en fait au jus sucré qu'on appelle le mou et que je vais mettre à ébullition dans la cuve. Voilà, donc là ça va reposer pendant 10 minutes et c'est à peu près le temps qu'il va me falloir pour que mon eau chaude que je suis en train de monter en température arrive aux alentours des 78-80 degrés. Voilà, donc je vais filtrer ma cuve d'empâtage avec mon eau chaude qui sera voilà, autour de 78 degrés. Et donc cette filtration a pour but de récupérer les derniers sucres en fait qui sont actuellement contenus dans le gâteau de céréales là. Voilà, de récupérer ces derniers sucres de manière à avoir un rendement qui soit optimum en fait, voilà, récupérer au maximum le sucre qui va se retrouver ensuite dans ce fameux jus sucré qu'on va faire bouillir. Et donc pendant ce temps du coup je vais installer ma cuve d'ébullition au sol. Donc comme j'expliquais là, c'est ma picobrasserie, c'est une gravitaire, donc l'eau chaude est située tout en haut, ma cuve d'empâtage de manière médiane au milieu, et au sol je vais avoir ma cuve d'ébullition. Voilà, donc en gravitaire mais parce que c'est la gravité qui fait le travail, l'eau chaude va tomber au milieu dans la cuve d'empâtage et le jus sucré va tomber au sol dans la cuve d'ébullition. Ok. Alors ça, ouais, ça c'est la connerie, tu vois. Pas oublié.
Ah oui.
Une fois que tu l'as fait une fois ou deux, c'est bon, tu ne sais pas compter.
Je comprends bien, ouais.
Surtout que le jus qui va sortir en premier, c'est le jus qui est le plus sucré. Donc si tu commences à le paumer celui-là.
Ouais.
Donc là, je suis en train de faire ce que s'appelle la recirculation, c'est-à-dire je suis en train de prélever le fond de la cuve d'empâtage qui a un jus qui est très trouble et un peu chargé en matière pour le refaire passer en haut de la cuve. Voilà. Donc, du coup, ça me permet d'avoir un jus qui va sortir d'emblée dans la cuve d'ébullition, qui soit le plus clair possible, autant que faire se peut. Et voilà, donc ça fait 15 minutes. Et on va pouvoir aller boire un coup.
Ah, tu vois. Bon coup.
Là, je suis bon quand même. Il est 12h35.
Santé. Ouais, hein. Santé.
Allez, osez
au centième. Hein.
Parce que c'est le centième brassin, tu nous l'as expliqué, ah ouais. C'est ça. Donc, le premier, c'était quand?
Ah, 4 ans, pardon.
Il y a 4 ans.
C'était en novembre 2016.
C'est super. Elle est super, ouais. Bonne, hein.
Ouais.
Même troublé comme ça, hein. Mmh. Parce que comme ça,
c'est un peu agressif, là, mais c'est normal.
C'est laquelle, celle-là?
C'est la première. C'est la...
Tu l'as pris sur les rouges.
D'accord.
Oh là là. C'est une référence au film de la hiver.
Ah ouais, c'est influencé par ça, ouais.
Ah ouais.
Non, c'est juste parce que c'est un film d'origine japonaise. Mmh. Mmh.
C'est un drapeau.
La Voix Maltée. À suivre sur Radio Albigès et à réécouter sur radioalbigès.com.